Bonjour mes amis. Ça va? Ok. Pendant plusieurs jours, j'ai été tenté. Lorsque Clément m'a dit de parler sur la tentation, j'ai été tenté de trouver une excuse pour ne pas venir. Parce que j'ai eu comme un blanc. Normalement, je prends les textes, je lis, je médite quelques jours. Après, je commence à faire des petits post-it avec des idées. J'y rassemble. Mais j'ai trouvé rien. J'étais débordé de travail, fatigué. J'ai eu un problème de santé aussi. Enfin, chose de la vie. Mais je suis content d'être là et je suis certain que le Seigneur veut nous parler aujourd'hui par ces textes. Et pour moi qui travaille dans une école de formation des pasteurs et missionnaires, il n'y a rien de, qui m'intrigue le plus, c'est de constater qu'un étude biblique ou une prédication peut être très fatigant pour l'auditoire. Malheureusement, ça arrive dans la plupart des cas. C'est soit parce que le texte n'a pas bien été travaillé, ou parce que l'interlocuteur ne sait pas parler en public. Parfois, on se trouve hésitant, timide, effacé, ou sinon trop prétentieux, en se croyant maîtriser la matière et l'auditoire. Parfois, il a une bonne tête, une bonne figure, c'est pas le cas. Tout simplement, il se croit dans les pouvoirs de nous casser les oreilles pendant 50 minutes. L'autre jour, j'ai même envie de me lever et dire « Taisez-vous, je pars ». Mais j'ai eu les sentiments de l'amour fraternel et Christina m'a aussi aidé et m'a dit, tu vois, tout est soir là et tout était. Je vois la prédication comme une bataille d'un homme contre tous. Et si on n'est pas bien, c'est déjà échoué d'avance. Je n'ai pas l'intention de vous exposer mon grand savoir, tout simplement parce que je ne l'ai pas. Mais je crois que dans cet exercice de parler, et quand vous êtes invité de parler et prêcher, vous devez faire les premiers pas, parce que le Seigneur veut parler à travers de nous, de notre bouche. Je crois qu'il y a une promesse de Dieu. Et lui seul, il peut nous parler au moment de l'exposition, de la méditation de sa parole. Et c'est au Saint-Esprit que je vais me confier maintenant, parce que c'est une matière très importante pour nous de parler des tentations et des épreuves. Parce que si on prend les textes dans les premiers chapitres, il va nous parler de l'exercice et de la patience, des épreuves et de la tentation. Avant d'entrer dans les thèmes de la tentation, ça vaut la peine de se demander qui était Jacques. Pour certains, Jacques était le frère de Jésus, un frère des pères et mères, celui qui est devenu la colonne de l'église de Jérusalem. Jacques commence son épître en disant « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. » Or, mes amis, nous savons très bien que les premiers chrétiens étaient des juifs. Et l'Église naissante a eu du mal à comprendre que la grâce du salut était pour tous, juifs et non-juifs. C'était les combats de la vie de l'apôtre Paul. Il a combattu la plus grande hérésie que l'Église naissante a dû faire face, l'hérésie judaïsante. Les premiers chrétiens étaient très attachés à la loi de Moïse, voulaient imposer la circoncision et l'observance des règles strictement juives aux païens. Jésus-Christ, nous savons très bien, est venu mourir sur la croix et payer les prix de notre réconciliation avec Dieu. Et l'apôtre Paul écrit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc c'est dans ces contextes que Jacques écrit son épître. Donc nous savons que Luther a eu du mal à reconnaître cette épître comme inspirée, parce que Jacques semble dire des choses contraires à l'apôtre Paul. Paul insiste sur l'importance de la foi et Jacques insiste sur les œuvres. Pendant des siècles, il y a eu un combat théologien pour essayer de concilier les choses. Et Luther, figure majeure de la réforme protestante, 1517, disait sur l'épître de Jacques, épître des pailles, qui n'avait rien d'évangélique, rien d'apostolique. Les docteurs en théologie, tellement touchés par la révélation de la justification par la foi, quand il a lu, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, ça vient de Dieu. Luther, homme qui s'élève seul contre l'Église qui marchandait le salut, l'Église où il faisait les commerces du salut. Du coup, Luther a eu du mal à comprendre. Mais nous louons le Seigneur, parce que l'œuvre que Luther a commencée, le Seigneur a donné la suite. Et nous sommes aujourd'hui les fruits du travail, des efforts de cet homme. Et nous levons très haut, la manière, à la bannière de la foi chrétienne, qui est ces livres entiers des Genèse, Apocalypse, et la parole de Dieu, lumière dans les ténèbres. Les livres de Jacques est là, il tient ferme, entre le livre d'Hébreu et avant 1 Pierre. Les amis, Jacques dit au verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » C'est pas encore le texte qui nous a été proposé, mais c'est très important de les lire. Au verset 12 aussi, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne des vies que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » La vie d'un chrétien, c'est comme ça. D'un côté, l'épreuve, de l'autre côté, la tentation. C'est un combat, 24 sur 24. Même nous n'avons pas du repos, même pas une minute. Mais au milieu de cette guerre, de ces combats, un grand mystère s'est produit. Nous avons la paix avec Dieu, une paix qui surpasse toute notre compréhension. Nous venons de chanter aujourd'hui « Dieu est dans les tempêtes ». Et c'est vrai. Cette semaine, j'ai eu des épreuves, des tempêtes. Je pouvais rien écrire. J'étais tellement plongé dans mes épreuves que je me suis dit « je ne peux pas simple mot ». Mais le Seigneur nous connaît. Il est là avec nous. Le Seigneur ne voit pas si un jour tu ne pries pas, ou si un jour tu ne prends pas la Bible et prends ta vie dans l'ensemble, si tu es fidèle à lui ou pas. Il sait de quoi nous sommes composés, des faiblesses. Mais il est là avec nous. Il nous fortifie. Il nous prend par la main. C'est la croix du croyant. Et chacun doit porter sa croix. Il y a ceux qui, à force de renoncer à tout pour Jésus, portent leur croix avec un beau sourire. Ils ont encore de la force d'aider à ceux qui ont du mal à porter leur croix. Comment il est triste de constater que certains ont abandonné leur croix au milieu du chemin. Séduits par le diable, par les tentations de ce monde, aujourd'hui, il porte un fardeau encore plus lourd, voire même écrasant, sans paix, seul, victime de leurs décisions. Mais n'importe la profondeur de l'abîme où vous êtes tombé, la densité de tes ténèbres, Jésus-Christ est puissant. Il t'étend la main et par sa puissance, il vous arrache de la gueule du lion. Je suis la preuve vivante de cette vérité. Christ m'a sauvé et je suis debout. Il vit en moi. Il est réel. Là où je suis tombé, personne ne pouvait m'élever. Mais Jésus a brillé dans mes ténèbres. Et aujourd'hui, je suis là pour vous dire que ça vaut la peine de servir à Jésus et de porter sa croix. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation et l'épreuve. Tu veux marcher avec Christ? Prépare-toi pour souffrir, et souffrir beaucoup. Souffrir d'être mal compris, souffrir l'indifférence des autres, souffrir de comprendre la nature du péché, présent déjà dans les enfants, et de constater que l'homme devient, avec l'âge, un spécialiste du péché. Plus nous marchons avec Jésus, plus notre croix devient lourde, car plus on voit la lumière, plus on voit la misère de ces mondes. Et nous voulons partir et habiter avec Jésus. Le monde n'a plus d'importance pour nous, mais il y a un chemin encore à parcourir. Et le Seigneur nous appelle à supporter avec patience. Patience, c'est quelque chose, un mot qui a disparu de nos bouches. Nous voulons là et tout de suite. Les tests de la tentation. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. C'est inévitable. Quand on parle de la tentation dans la Bible, on se rappelle des deux scènes bibliques. La tentation de nos pères, Adam et Ève, dans les paradis. Et la tentation du Christ, Matthieu 4. Mais non, ni l'un ni l'autre concerne la réalité de la tentation de nos vies. Adam et Ève ne connaissaient pas les péchés. Ils étaient innocents. Jésus, la deuxième personne de la Trinité, avait toute sa force de résister au péché. Et nous, pauvres de nous, conçus dans les péchés, plongés dans un monde plein de péchés, depuis notre plus ancien souvenir, nous étions plongés dans une ambiance de péché. Et la Bible nous parle très clair ce matin. Que tout homme et toute femme soient déclarés coupables et Dieu innocent. Que tout homme soit déclaré menteur et Dieu seul vrai et juste. Que personne puisse attribuer à Dieu la culpabilité. Que personne puisse attribuer à Dieu la faute, parce que la faute c'est en nous. Chacun de nous est un menteur, faible et inconstant, incliné au péché, surtout au péché de la parole, de manière que nous ne pouvons nous fier à ce que nous disent, même si ça c'est beau, même si à la première vue ça nous paraît très bien. Est-ce que vous vous rappelez de quelques discours dans la semaine comme ça? Mais notre Dieu nous a donné un très sage conseil dans sa parole, en nous disant de nous garder des hommes. Et quand il dit des hommes, c'est aussi des femmes. Et il nous a dit que nous aurions pour des ennemis, ceux de notre propre famille. Et il nous a dit aussi de ne pas croire à ceux qui disent « le Christ est ici et le Christ est là-bas ». Malheureusement, mes amis, c'est par des tristes expériences dans nos vies que nous apprenons cette vérité. Le Seigneur veut nous apprendre par sa parole, à l'écoute de sa parole, à faire face aux épreuves et aux tentations de cette vie. Il fallait pas que nous passions à nouveau par de nouvelles souffrances. Il faut obéir à la parole de Dieu. Notre frère Clément nous a dit d'une épreuve qu'il a passée dans son travail. Il était confronté, il pouvait avoir des attitudes négatives. Il pouvait se fâcher, être en colère. Mais il a pris du calme. Il a cherché et écouté l'Esprit de Dieu. Et c'est ça que nous devons faire. Parce que une seule parole, comme nous dit Jacques, c'est juste une étincelle peut mettre feu dans une forêt entière. Nos attitudes, nos petits actes, déjà blessent les corps de Dieu. Et c'est pas parce que Dieu veut simplement être un Dieu souverain qui doit être obéi. Il veut notre bonheur. Il veut que nous soyons en paix. Et quand on nous dit d'obéir sa parole, c'est pour que nous soyons dans la paix. Les péchés, qu'est-ce que le péché? Le péché dans les sens, l'origine du mot, c'est quand on rate le but. C'est rater le but. Les péchés, c'est quand on tourne. Les péchés, quand on, dans la plus forte expression, c'est quand on tourne les dos à l'Éternel, quand on veut faire la chose à notre manière. Et le Seigneur nous rappelle d'écouter sa parole. Verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. Ça se reproduit chaque jour, chaque heure dans notre cœur. Je me demande comment Dieu peut nous aimer, des créatures plongées dans les péchés. L'amour de Dieu, c'est un mystère, les plus fous jamais imaginés par les hommes. Un Dieu saint, juste et parfait, mais qui aime les pécheurs et qui habite, même tel que nous sommes, il habite en nous. Nous voyons le combat des chrétiens, d'un côté tentation, de l'autre côté les épreuves, et au-dedans aussi les combats. Parce que je vous invite à prendre les textes de Matthieu 15, qui peut nous éclairer. Est-ce que quelqu'un qui a une bonne diction pourrait lire ce texte? Volontaire? Quelqu'un? C'est du 15, du 1, pardon, du 1 au 20.
Appelé avec la foule et lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souffre lui répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera terrassée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi, vous encore sans intelligence, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas. »
Merci, frère. Jésus nous montre clairement, et Jésus ne nous laisse pas dans les doutes, que le mal est en nous. Merci Seigneur, parce que nous n'avons pas une religion des actes. Ce que le Seigneur cherche en nous, c'est notre sentiment. Ce que le Seigneur cherche en nous, c'est la repentance. La Bible, elle ne cache rien. Elle dénonce complètement le péché en nous. Un des alicerces de la foi chrétienne, c'est que l'être humain est complètement corrompu. La corruption totale est un fait biblique et historique. Tous ont péché, ils sont dépourvus de la gloire de Dieu. Et je vous donne un exemple très concret et très proche de nous, la corruption de l'État. La corruption du monde de la politique, on n'arrive plus à s'y comprendre. Le mal s'accroît et cela a été déjà prophétisé. L'Europe et les pays du premier monde ont une politique dite plus transparente. Mais quand on gratte un petit peu le vernis, on voit que c'est pas le cas. Nous, du tiers monde, nous sommes habitués. Et même on rigole déjà d'attitude des politiques. Parce que tout est fait à la lumière. On s'en fiche, quoi. Finalement, à quoi ça sert d'aller voter? Mais là, ça montre que la corruption, c'est universel. L'homme, dès qu'il peut, et tant qu'il est sur terre, il est en train de mentir, de voler, de mépriser son prochain. Les chrétiens dans ce monde, il est appelé à faire la différence. Même tenté, même dans les épreuves de la maladie, les épreuves de chaque jour, les péchés qui habitent en lui, il est appelé à servir Dieu et être son témoin. Si le monde va de pire en pire, les chrétiens, lui, il peut aller de gloire en gloire. Mes amis, les textes et cette méditation a pour deux objectifs. Pour vous rappeler que Dieu est avec nous dans nos épreuves. Ne soyez pas découragés. Non. Si vous ne pouvez pas souffrir avec joie, au moins souffrez avec patience. Parce que le Seigneur, il nous envoie la joie aussi bien que la tristesse et les épreuves. Il nous éprouve parce que c'est par les épreuves que nous grandissons. C'est pas par un week-end avec un bon bouquin et chrétien, une belle musique, un bon repas, qu'on va faire des avancées dans le monde spirituel. Mais c'est par des épreuves que nous avançons et nous supportons notre croix. Et nous pouvons aussi aider ceux qui sont au point d'affaiblir. Le deuxième objectif, c'est de vous dire attention aux tentations. Soyons plus calmes en prenant des décisions importantes. On dit qu'il n'y a pas des petits péchés moyens ou grands péchés. Je vous dis clairement qu'il y a des petits péchés, il y a des péchés moyens et il y a des péchés très importants. Il y a des péchés qui vont nous poursuivre. Les conséquences du péché vont nous poursuivre jusqu'à la fin de nos jours. On va pas pouvoir chanter comme Edith Piaf, je ne regrette rien. Tu vas dire, ah, je regrette tellement. Pourquoi j'ai pas fermé ma bouche ces jours-là? Pourquoi je ne suis pas calmé? Parce qu'il y a des petites décisions qui prennent une grande dimension dans votre vie. Il y a des gens qui dépendent de votre décision aussi. Si vous êtes un père de famille, vos décisions vont, les conséquences de ces mal choix vont vous poursuivre et aussi à vos enfants. Mes amis, la parole de Dieu nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. Et Jean nous dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls dans nos péchés. Il nous pardonne, il nous étend la main. Et la Bible est l'histoire d'un Dieu qui est venu à notre rencontre. Donc le Seigneur nous donne toute cette grâce. Je vous invite à prendre votre croix et avancer avec courage. Et aussi être attentif, vigilant, parce que les dangers, il est là. Mais le Seigneur, il nous donne la force. Et c'est Jacques même qui va nous dire, résistez au diable. Résistez au diable. C'est au verset chapitre 4. Verset 7. Résistez au diable, il fuira de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Que le nom du Seigneur soit loué. Que chacun de nous puisse être béni par cette parole. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, nous venons à toi, Seigneur, tel que nous sommes. Nous ne pouvons rien cacher parce que tu nous vois, tu nous connais. Nous te crions pour ton secours. Viens à notre rencontre, Père. Nous nous approchons de toi par les sacrifices que tu as faits dans la croix, parce que nous ne méritons rien. Mais nous crions ta miséricorde, ton pardon, que tu puisses nous aider dans nos tentations et que nous puissions aussi résister, Seigneur, et avoir une attitude souhaitable, que nous puissions écouter ton esprit. Fortifie chaque frère et sœur ici présent, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pourrons rien faire. Nous te remercions pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Merci, mes amis.